Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans ce hall des expositions où se déroule aujourd'hui la journée des formations supérieures. Notre mission, eh bien, ça va être d'éclaircir tout ça pour les jeunes qui cherchent une orientation, qui cherchent une école, qui cherchent de quoi accéder à l'emploi de leurs rêves. Nous aurons durant cette émission, cette troisième partie d'émission, plusieurs invités. Nous aurons la gendarmerie à nos micros, nous aurons également le lycée Schumann et Perret du Havre qui nous parleront des filières du bâtiment. Nous aurons, mes fiches ne sont pas complètes, mais nous parlerons également d'ergothérapie et puis nous parlerons avec des jeunes, bien entendu. Justement, sont déjà installés autour de nos micros Yoli, Marion et Émilie que nous retrouvons tout de suite.
Buenas tardes.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Voilà, nous le rappelions dans cette introduction de troisième volet de cette émission en direct, en léger différé, des expositions à l'occasion de la journée des formations supérieures. Nous croisons beaucoup de monde, car nous sommes in situ dans les allées. Et justement, trois jeunes étudiantes sont venues à notre rencontre, Émilie, Marion et Yoli. Bonjour à vous.
Bonjour.
Voilà, et elles venaient pour nous proposer faire la promotion alors du DUT Gestion des entreprises et administration, comme nous avions eu en première partie d'émission, mais avec une particularité cette fois, c'est ce que vous appelez l'année spéciale.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que cette année spéciale?
Alors l'année spéciale est destinée aux personnes qui ont validé un bac plus 1 ou plus, ou alors aux personnes ayant une expérience professionnelle qui souhaitent avoir une évolution ou même se réorienter dans leur travail.
C'est une espèce de raccourci pour obtenir ce DUT gestion des entreprises et des administrations.
C'est ça. Le DUT est fait en un an au lieu de deux ans à la normale.
D'accord. Quel cadre spécifique doit-on remplir pour pouvoir rentrer dans ce DUT? Est-ce que c'est sur dossier, sur concours, piston?
Il faut remplir un dossier de candidature avec une lettre de motivation et après le dossier est accepté ou pas.
Ou pas d'ailleurs. Et l'objectif étant, une fois qu'on a obtenu un bac plus 1, soit dans une autre discipline, soit par l'expérience professionnelle, c'est de gagner du temps et de faire la dernière année. Alors du coup, est-ce qu'on fait juste la deuxième année du DUT ou c'est une année mixée?
C'est une année mixée.
Alors cette année, elle est mixée comment?
En fait, on a plusieurs unités de travail avec différentes matières. Et le programme est un peu adapté sur le nombre d'heures parce qu'en fait, on fait sur deux semestres, on fait les quatre semestres.
D'accord. Donc c'est plus intense quand même.
C'est plus intense, oui.
Ça demande quoi d'être plus attentif, plus motivé, plus studieux?
Je dirais une bonne organisation parce qu'il faut savoir gérer un peu tous les cours, quoi.
Alors, vous qui êtes dans cette filière, donc vous êtes en classe spéciale sur ce DUT gestion des entreprises et des administrations, quel a été votre parcours particulier? Émilie, par exemple, quel est votre parcours à vous?
Oui, alors j'étais à l'université de droit de Rouen et en fait, j'ai rencontré des difficultés, comme plein d'étudiants en droit. Et du coup, je suis allée au CIO de Rouen qui m'a conseillé de faire ce DUT en année spéciale. Du coup, j'ai lancé ma candidature sur OPI. Elle se fait sur OPI.
Alors OPI?
OPI, c'est une inscription par Internet, en fait. On aura un numéro à garder tout au long du suivi du dossier. Et c'est sur ce site-là qu'on verra si on a été accepté ou pas.
Très bien. Oui, du coup, vous passez d'un enseignement en amphithéâtre avec 300 élèves à une classe d'une quarantaine d'élèves, c'est ça?
Une vingtaine.
Vingtaine même. Donc,
ouais.
C'est un confort quand même pour pouvoir étudier, j'imagine.
Ouais. Et on vient vraiment de milieux différents.
Ce qui doit enrichir également cette classe.
Ouais.
Marion, du coup?
Alors, moi, j'ai fait deux ans d'études de communication. Et j'ai souhaité me réorienter parce que au fur et à mesure des stages que j'ai effectués, ça ne me convenait pas.
D'accord. Du coup, j'imagine que ce bagage en communication, vous avez validé un diplôme en communication ?
Non, j'ai un équivalent bac plus 2 parce que j'étais en programme grande école, donc je validais le diplôme qui est à la 5e année.
Ah ouais, sacré parcours. Du coup, j'imagine que votre bagage de 2 années en communication vous aide maintenant dans le DUT gestion des entreprises et des administrations.
Oui, c'est sûr que j'ai des matières du coup où je comprends plus parce que j'ai des acquis d'avant. Et ce qui est bien dans le fait qu'on vienne tous de milieux différents, c'est que du coup, bah, Émilie est plus forte en droit, Yoli est plus forte en autre chose, et on a tous une matière un peu qu'on préfère, et du coup, on peut plus s'aider facilement.
Du coup, il y a plus d'entraide peut-être qui se passe. D'accord. Yoli, vous, votre parcours ?
Alors moi, j'ai fait un DUT génie biologique option diététique, que j'ai validé l'année dernière. Donc du coup, moi, plus tard, je voudrais ouvrir mon propre cabinet. Donc c'est pour ça que j'ai intégré le DUT GEA année spéciale.
Alors là, pour vous, pour le coup, c'est plus un complément de votre formation initiale.
Voilà, c'est ça.
Ça veut dire que contrairement à Marion et Émilie qui se réorientent, vous, c'est plutôt, j'ai déjà mon bagage initial et je viens le compléter par rapport à mes ambitions personnelles et professionnelles.
Oui.
Du coup, dans cette classe, j'imagine que les questions d'orientation se posent de manière différente par rapport à un cursus plus classique. Est-ce que c'est abordé à travers votre formation, l'histoire de cursus, l'histoire d'objectifs professionnels ?
Bah, un petit peu quand même, parce qu'il y en a, ils veulent poursuivre dans des licences professionnelles, ou il y en a qui ont déjà une licence de validée, mais qui se sont réorientés là pour ouvrir quelque chose, un commerce ou autre, et qui veulent avoir les bases. Et il y en a d'autres, c'est pour avoir une évolution dans leur milieu professionnel. Parce qu'on a des personnes qui sont plus âgées que nous, qui étaient déjà dans le monde du travail, en fait.
Ah oui, du coup, oui. C'est vraiment une classe vraiment très particulière et assez riche, du coup, par les expériences des uns et des autres. Vous qui êtes passé une première fois par le parcours de l'orientation, qui passez une deuxième fois, enfin, alors maintenant c'est réglé, vous êtes rentré dans cette classe spéciale, mais quelles sont les difficultés majeures de l'orientation, du coup ?
Il y en a plein. C'est vraiment se projeter et savoir si ce qu'on veut faire plus tard.
Vous êtes d'accord, Marion,
oui.
Yoli ?
Et là, comment du coup, ce DUT-là, je trouve que quand même, on touche à pas mal de matières. Il y a du droit, comme il y a de la comptabilité, comme il y a de la gestion, il y a un peu de tout. Donc, on peut de là un peu savoir, enfin, essayer de se projeter pour l'avenir.
Très bien. Les dossiers sont à déposer quand ? Moi, demain, je veux me réorienter dans une classe spéciale GEA, donc gestion, entreprise et administration. Comment je m'y prends ? Est-ce que le dossier, c'est maintenant qu'il faut le constituer ? J'imagine que ce ne sera pas en septembre prochain.
Vous pouvez déjà commencer à le faire, oui. Il faut une lettre de motivation, un CV. Vous pouvez l'envoyer directement à l'IUT. Et attendre l'ouverture des inscriptions, c'est un peu après comme le post-bac sur OPI, c'est à peu près les mêmes dates, et vous allez dessus et après vous lancez votre inscription.
Très bien. Merci à vous, Émilie, Marion et Yoli, d'être venues nous parler de ce DUT gestion entreprise et administration qui se prépare à l'IUT d'Evreux. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Monsieur Deuze, je vous propose que nous repartions en musique. Avec le titre automne, et comme le soulignait notre ami Deuze, c'est la moitié de Dead Rock Machine quand même.
T'es pas en grâce verte, toi ? Ça me semble bien que c'était toi, avec ton vieil accent de chanteur de rap, hip hop. Et cette manie que tu as de cracher partout comme en lava. C'est excessivement énervant.
Le mix des cultures, principe actif, 102.4 FM.
Et principe actif toujours au hall des expositions à l'occasion de la journée des formations supérieures, nous vous le disions tout à l'heure. Nous recevons la gendarmerie et plus précisément l'adjudant Houlbert. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous faites partie du centre d'information et de recrutement de la gendarmerie, vous dépendez de Rouen.
Nous dépendons de Rouen.
Voilà.
Les centres d'information et de recrutement, donc nous en avons dans chaque région. Donc actuellement, toujours 22 régions, mais à partir d'un certain moment, il n'y en aura plus de 22. Mais nous avons un CIR par région.
Alors la gendarmerie, on pourrait avoir l'impression de connaître les métiers de la gendarmerie, notamment à travers le travail des gendarmes sur les bords des routes où on les croise très régulièrement. Mais la gendarmerie propose beaucoup d'autres métiers et ça va bien au-delà
de la répression.
Voilà, je sais pas comment on dit, des gendarmes en tout cas qu'on croise sur le bord des routes.
Donc nous avons, oui, bon, c'est vrai que on nous connaît souvent pour faire de la répression, mettre des amendes, arrêter les gens, mais il faut savoir que notre métier n'est pas, c'est pas les missions principales. Nos missions principales, c'est d'aider, sécuriser et puis aide à la population. Donc c'est vrai que nous avons énormément de filières différentes. Donc ça passe par la sécurité routière, ça passe par la police judiciaire, mais nous avons aussi des spécialistes au niveau de l'environnement, nous avons des spécialistes au niveau des finances, nous avons des spécialistes au niveau mécanique, donc nous avons des personnes qui travaillent sur le terrain, donc les unités opérationnelles, mais aussi nous avons des personnels militaires qui travaillent en soutien pour aider justement les gendarmes qui sont sur le terrain.
Avec leurs spécialités qui leur sont propres, des unités.
Tout à fait, oui. Donc,
Sur la gendarmerie, un jeune qui souhaiterait s'orienter vers la gendarmerie, il a le choix entre énormément de métiers. Quelles sont les études, les filières scolaires qui permettent d'accéder à des métiers recherchés en gendarmerie ?
Alors, en gendarmerie, nous avons un recrutement qui se fait sans diplôme. Et nous pouvons recruter jusqu'au bac plus 5, donc diplôme d'ingénieur ou master 2. Donc en fonction des filières, en fonction des capacités de chaque personne, elle pourra quand même accéder et faire un métier en gendarmerie. Donc nous avons les filières donc, de gendarmes adjoints volontaires. Nous recherchons des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Donc là, elles peuvent accéder à la filière gendarme adjoint volontaire. Nous avons ensuite les sous-officiers de gendarmerie, où là, on exigera automatiquement qu'ils aient minimum un bac. Après, n'importe quel bac, que ce soit un bac professionnel, un bac technologique, nous ne demandons pas une filière plus qu'une autre. Et ensuite, nous avons la filière officier, où là, généralement, on demande soit bac plus 3 pour des personnes qui vont être en unité de soutien, ou alors les personnes qui vont être en unité de terrain, ce sera bac plus 5.
Alors, revenons sur cette notion d'unité de soutien. Ce sont des unités spécialisées. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs types de spécialisations. Si vous pouviez nous en citer quelques-unes, que ce soit plus concret pour nous.
Alors, elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Il y en a de l'ordre de 6, les unités de soutien.
Alors, toutes les citer.
Donc, nous avons les personnes qui sont spécialisées en ressources humaines secrétariat. Nous avons ensuite les personnes qui sont spécialisées en comptabilité finance.
Après, ça, c'est pour les enquêtes autour de la finance ou non c'est pour
tout.
La gestion de la gendarmerie.
Voilà, c'est pour la gestion de la gendarmerie. Après, nous avons les mécaniciens, donc auto-engins blindés. Nous avons les restaurations collectives, donc tout ce qui est métier de la bouche, on va dire. Et puis nous avons des personnels qui sont spécialisés pour la gestion de nos affaires immobilières, c'est-à-dire tous nos logements. Donc voilà les unités de soutien, les personnes qui peuvent travailler dans leur domaine de spécialité.
Voilà, donc c'est plus clair maintenant. Unités de soutien, ce sont voilà, ceux qui font tourner la machine gendarmerie.
Voilà.
Est-ce qu'au sein de la gendarmerie, il y a une possibilité d'entrer, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, en gendarme réserviste ou en gendarme... Oui, c'est ça, réserviste.
Oui, réserviste,
voilà,
oui.
Ou de terrain. Ouais. Et puis avancer au fur et à mesure dans les échelons de la gendarmerie pour... se former et accéder à d'autres postes.
Alors, pour un réserviste, c'est des personnes qui veulent travailler avec la gendarmerie, mais de temps en temps. Ce ne sera pas un métier à temps complet. Ensuite, quelqu'un qui est réserviste peut accéder au concours de sous-officier en interne. Donc, et là, cette personne n'a pas forcément besoin d'avoir le bac pour pouvoir accéder au concours interne. Ensuite, c'est vrai que quelqu'un qui est sous-officier de gendarmerie, qui a un bac plus 3, pourra accéder à un concours d'officier en interne. Donc on a nos concours après, nos concours internes. Ensuite, au niveau de nos spécialités, nos filières différentes, quelqu'un qui veut être par exemple maître chien ou motard, avant d'être maître chien, avant d'être motard, il doit être d'abord sous-officier, passer le concours, faire quelques années dans une brigade, on va dire, normale, et ensuite il aura des tests d'aptitude à passer. Pour
d'accord.
Pouvoir accéder.
Il y a une notion de parcours et commencer par oui. L'échelon de terrain de gendarme. On comprend bien, enfin on imagine bien en tout cas, qu'un mécanicien à la gendarmerie doit avoir un travail beaucoup plus divers et varié qu'un mécanicien en garage automobile classique. Notamment, vous parliez d'engins blindés, de véhicules spécifiques dont vous disposez.
Voilà, tout à fait. Donc on a les motos. On a les véhicules légers, donc on a plusieurs véhicules différents. Donc le mécanicien est formé sur toutes ces différents véhicules.
Voilà, du coup, un champ de mécanique du possible beaucoup plus large qu'en garage, je dirais, civil.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des métiers comme aujourd'hui, on parle notamment de délinquance sur Internet, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a par exemple des informaticiens qui accèdent à des postes, je dirais, autre dans le privé avec des technicités spécifiques.
On a nos spécialistes informaticiens. Alors, quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme en informatique peut accéder au concours de sous-officier normal. Et ensuite, au sein de la gendarmerie, si on a besoin de personnel, on va faire un appel à volontaires. Et si on lui fait passer des tests d'aptitude, et si les tests d'aptitude sont concluants, on le formera sur l'informatique en gendarmerie. Donc, c'est vrai qu'en informatique, il y a beaucoup de choses différentes. Donc il y a la cybercriminalité, ce genre de choses. Donc on a des spécialistes dans ce domaine-là, oui. On a aussi ceux qui font des recherches au niveau pédophilie, donc ce genre de choses. Après, on a nos informaticiens qui sont là pour créer nos réseaux. Donc c'est assez vaste.
J'imagine qu'en plus, certains métiers en gendarmerie qu'on retrouve dans le civil sont abordés différemment, j'imagine, en gendarmerie.
Tout à fait. On a par exemple nos plongeurs subaquatiques. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a des diplômes dans le civil en tant que plongeur ne sera pas forcément un plongeur en gendarmerie, puisque faut avoir toujours ses aptitudes physiques et puis intellectuelles. Mais ensuite, le plongeur en gendarmerie va avoir des missions bien spécifiques à son domaine de spécialité. Donc faire des recherches d'indices sous l'eau, ce genre de choses, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans le civil. Donc on est obligé de former, par exemple, nos plongeurs subaquatiques.
Quelles sont les joies et les difficultés de travailler en gendarmerie?
Alors, les joies, je dirais que, par exemple, quand on a quelqu'un qui vient nous voir parce qu'il s'est fait soit cambrioler ou agresser et qu'on réussit à aller jusqu'au bout de l'enquête et de faire en sorte que soit la personne est la victime donc, et soit à compensation de savoir que son agresseur est arrêté, donc c'est une joie de pouvoir l'indiquer à la personne, à la victime. Après, c'est vrai qu'on a certaines contraintes, dans le sens où, mais quand on rentre en gendarmerie, on le sait, on n'a pas forcément toujours des horaires fixes. Hein. Et donc on peut travailler de jour, on peut travailler de nuit. C'est vrai que c'est pas forcément toujours agréable d'être obligé de faire de la répression. on n'est pas toujours très bien accueilli à certains endroits, donc ça peut être des contraintes. Mais je pense que quelqu'un qui veut rentrer en gendarmerie, avant de rentrer en gendarmerie, il doit connaître justement ses contraintes et doit les accepter. Sinon, si on n'accepte pas ses contraintes, on ne peut pas faire un bon gendarme.
Est-ce que des jeunes, et peu importe le parcours de formation sur lesquels ils se trouvent actuellement, est-ce que c'est un secteur porteur pour les jeunes? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a de l'emploi qui s'ouvre à la gendarmerie? Est-ce que c'est voilà, un secteur, peut-être pas en expansion, mais en tout cas porteur?
Alors, il faut savoir que la gendarmerie, on recrute en permanence. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des années où on va peut-être faire un peu moins de recrutement que d'autres, mais on recrute en permanence. Et quelqu'un qui, au bout de quelques années, veut partir de la gendarmerie parce que c'est un métier qui ne lui plaît plus ou il se sent plus à l'aise au sein de ce métier, pour retrouver du travail, on a ce qu'on appelle le bureau de reconversion. On aide ces personnes à pouvoir retrouver un travail. Et généralement, sur un curriculum vitae, quelqu'un qui a fait un séjour dans les forces de l'ordre, ça peut être un petit plus pour les sociétés qui veulent recruter.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, merci à vous, adjudant Houlbert, d'avoir échangé au micro avec nous sur les métiers plus largement de la gendarmerie. Merci à vous.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir. Amideuse, vous avez sûrement un morceau dans votre besace.
Salut les filles, salut les garçons qui aiment les filles et les filles qui aiment les garçons, mais aussi salut les filles qui aiment les filles et les garçons qui aiment les garçons. Enfin bref, passons. Pour ces derniers, ça va pas être fun, vu que nous parlerons essentiellement de filles, parce qu'on les a dans le cœur et dans le caleçon, même quand elles ont le cœur comme un glaçon. De la première fille à la fille de trop, de la mauvaise fille à celle qu'il me faut. Blonde, rousse, brune, rouge, blanche, noire, yellow. Bonjour, coucou, bonsoir, hello. Moi c'est le Jules et quand j'arrive à zéro, mon nom est sur leurs lèvres comme du labello. Si tu veux me joindre ma belle, tu m'appelles oh. Secours et j'arrive, beurre pour l'apéro. J'aime les filles comme Jacques Dutronc, tellement de filles que je tape du front et j'en perds la tête comme un canidé, qu'une idée leur faire leur fait, toujours à m'aligner avec leurs fesses. Que c'est grave docteur S, que c'est grave docteur S. Non je suis pas le seul dans mon cas, non je suis pas le seul dans mon cas, non non, non je suis pas le seul dans mon cas. Je voudrais ne plus être seul dans mon canapé.
Allez viens, y'aura des filles.
Canapé.
On va se calmer là.
Où sont les filles et leur rire plein de finesse, qu'elles soient fat ou fanatiques du fitness. Qui est-ce qui nous fait vivre l'ivresse et laisse un goût qui reste comme la Guinness? Oui, c'est bien elles les gonzesses. On espère trouver la bonne, alors on teste, on baise, on se pose des questions. Pour un peu on se ferait même sauter le caisson. Et comme François Villon, je demande où elles sont. J'ai beau avoir des diplômes, je reçois encore des leçons. Oh vous les filles, sans qui la vie serait difficile, sans qui le string ne serait qu'un bout de ficelle. Vous les filles sales, vous les filles seules, vous les silencieuses, vous les gentilles chouineuses, filles des années 90 ou 2010, les autres aussi, je vous adresse 2000 biges, je voudrais vivre 2000 piges, pour goûter tous les fruits que la vie met au bout de ma tige. Et si t'es misogyne, y'a peu de chances que tu kiffes nos rimes, et on pourrait en remplir 10 bobines. Je peux pas te traiter de con, je cherche des synonymes, sinon quand je vais en lécher un, je vais voir ta tête horrible. Une fille, un trésor, je suis Jim Hawkins, j'arrête. Respecte à mort, c'est mon shidoshi. Je voudrais finir dans les bras d'une petite coquine comme Félix Faure, mais le plus tard si possible.
Tu n'es qu'un Don Quichotte. Tu es Don Quichotte, Don Juan et Casanova, tous à la fois. Quand ce n'est pas ce sale bateau, ce sont les filles. Les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles.
Regarde, les canons devant la porte.
Mais quand même, hein. Les Rimailleurs, filles, toujours au hall des expositions à l'occasion de la journée des formations supérieures.
Radio
Principe Actif 102.4 FM.
Et oui, et que serait une journée de la formation supérieure si on ne parlait pas des formations du bâtiment notamment. Nous recevons Monsieur Martin du lycée Schumann et Perret du Havre. Alors c'est un lycée du bâtiment sur le site Perret, si j'ai bien tout suivi.
Oui, c'est exactement
ça. Et donc vous proposez les métiers du BTP, bâtiment travaux publics. Notamment, il y a agencement architectural, études et économie de construction, et puis des alternances technico-commerciales du bâtiment.
Oui.
Si j'ai bien tout saisi.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce secteur du bâtiment, et plus particulièrement la formation supérieure dans les métiers du bâtiment ? Parce qu'on a l'occasion de croiser énormément d'ouvriers sur les chantiers, mais derrière les ouvriers qui construisent, j'imagine qu'il y a un travail d'études, d'ingénierie.
Oui, tout à fait. En fait, les BTS que nous proposons, mis à part le BTS technico-commercial, bon, c'est plus facile à identifier par le grand public, les autres BTS sont des BTS plutôt bureaux d'études. Donc il s'agit en fait d'ingénierie. Donc c'est toute la partie, on va dire, théorique qui se passe avant les travaux pratiques. Donc si on prend le BTS AEA, Agencement de l'environnement architectural, donc il s'agit d'équiper les intérieurs de locaux. On peut prendre en exemple une boutique. Une boutique, vous allez avoir la vitrine, vous allez avoir les enseignes, vous allez avoir l'intérieur, les plafonds, les éclairages intégrés, les aménagements de bureaux, les mobiliers faits sur mesure. Donc chaque magasin, chaque local aménagé est un cas à part, un cas unique, et il faut des gens pour dessiner, concevoir et puis rendre techniquement réalisables ces ouvrages.
Et adapter au mieux en fonction de l'utilisation qui devra en être faite.
Voilà, donc tout à fait. Donc il y a des contraintes liées aux clients, liées au concepteur qui est l'architecte ou l'architecte d'intérieur, voire un designer. Et puis après, il faut rendre techniquement réalisable dans des contraintes, comme par exemple les contraintes administratives. Si vous prenez un établissement qui reçoit du public, comme un magasin, vous avez des contraintes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, donc des gens par exemple qui vont rentrer en fauteuil roulant, mais également des contraintes sur la sécurité incendie. Donc la réglementation française impose un cadre relativement strict, bien balisé pour utiliser des matériaux qui vont résister, utiliser des matériaux qui ne vont pas gêner par exemple la vision de personnes qui sont malvoyantes. On va imposer un niveau d'éclairage minimum nécessaire, enfin, etc. Donc les étudiants qui préparent ces BTS sont capables d'intégrer et de maîtriser complètement toutes ces contraintes.
J'imagine qu'à travers les contenus sont abordées les questions de législation que vous souleviez à l'instant, celles de confort. Il y a de nouvelles, ça commence à faire un petit moment maintenant, mais il y a de nouvelles notions comme l'écologie et le développement durable qui rentrent en ligne de compte, j'imagine, dans vos aménagements. Oui, oui. Ce sont des secteurs qui sont en constante évolution par l'avancée et des matériaux et de la technologie et également des législations.
C'est
des filières qui sont obligées de se renouveler régulièrement, j'imagine.
Bien sûr. Donc en fait, le Grenelle de l'environnement a imposé des exigences avec un calendrier. Donc il y a eu la fameuse RT 2012, réglementation thermique 2012, applicable 1er janvier 2013. Et puis on est déjà dans l'esprit de la RT 2020 avec des niveaux d'exigences, de performance thermique des bâtiments. Et puis il y a également les jeunes maîtres d'ouvrage, hein, la clientèle de jeunes qui est très sensible au côté développement durable, utilisation de matériaux qui vont bien vieillir, qui ne vont pas polluer, aussi bien dans la production, la fabrication et la destruction également.
Est-ce que tous ces aimants-là rendent plus technique, plus intéressant la formation et le métier éventuellement ?
Bah disons, j'allais dire que ça fait partie de ces formations d'avoir une veille technologique, c'est-à-dire de se tenir au courant de toute l'évolution du métier. Et c'est jamais qu'un aspect de cette évolution du métier. Mais il y en a d'autres. Il y a le domaine artistique, il y a le domaine réglementaire, on en a parlé, et il y a ce domaine technique. C'est-à-dire se mettre à jour régulièrement des évolutions de la technique. Et ce côté développement durable, pris en compte de tous ces éléments, sont des choses nouvelles, mais c'est jamais qu'une contrainte technique.
J'imagine comme ça un peu de loin que ça fait, c'est des formations qui, au-delà de travailler la technique, travaillent également la créativité, non ?
Exactement. On utilise les mêmes outils que les architectes d'intérieur. On modélise des espaces en trois dimensions, en deux dimensions. Et donc l'informatique prend une part très très importante dans ces formations. Et bien sûr, il faut que nos étudiants soient capables de visualiser les espaces qu'ils vont aménager dans les trois dimensions.
J'imagine aussi que voilà, cette notion d'économie...
Voilà, j'allais y venir. Donc on a notre deuxième BTS, BTS études économie de la construction. Donc là, on a des personnes qui sont capables de voir l'aspect économique d'un projet. C'est-à-dire qu'un architecte a dessiné l'espace, la volumétrie, les matériaux, mais il va falloir que quelqu'un puisse mettre des coûts derrière tout ça. Et l'économiste, le maîtreur également vont pouvoir, on va dire, voir tout l'aspect écrit, les dossiers techniques qui vont accompagner les dessins. Et donc c'est une partie non négligeable et très demandée dans la profession. Même si c'est pas très connu et les jeunes ne sont pas peut-être naturellement attirés par cette partie importante néanmoins du bâtiment.
Dans cette notion d'économie, alors il y a l'économie de la construction, j'imagine qu'il y a aussi l'économie du fonctionnement. Il y a aujourd'hui peut-être que je m'adresse à un spécialiste, alors peut-être que je vais me tromper, mais il y a des bâtiments aujourd'hui, ce qu'on appelle à énergie positive, des choses comme ça. Est-ce que ça rentre en considération l'économie sur la durée aujourd'hui quand on construit?
Ça peut être une contrainte qui est imposée. Alors on parle de maison positive. En Allemagne, cette notion en France, elle est vraiment un peu théorique. C'est pas encore dans des choses qui se font couramment sur les chantiers.
C'est lié au coût de la construction ou c'est lié à notre formation tout simplement en France qui est peut-être pas axée là-dessus ?
Il y a forcément un surcoût et tant que la réglementation nous imposera pas des contraintes aussi sévères, je pense qu'on est encore loin en France de cette construction qui existe déjà en Allemagne.
C'est aujourd'hui des projets d'utopistes plus que des projets de masse.
Oui, mais bon, je pense qu'on va vers ça de toute façon.
Quelles sont les joies, l'attractivité et peut-être les difficultés de ce type de formation ?
Alors, il faut savoir que ce sont des formations, les formations métiers du bâtiment qui sont quand même très demandées par nos jeunes parce qu'il y a une partie créativité. Chaque projet est un projet différent, c'est un nouveau challenge. Et en formation supérieure, on travaille uniquement sur la notion de projet. C'est-à-dire que l'étudiant, dès la première semaine de cours, il va directement travailler sur un petit projet, puis après un projet un peu plus grand, etc. Et cette notion projet amène un plus très 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 important. Et c'est une façon d'aborder le métier qui plaît beaucoup aux jeunes.
Ils finissent tous par construire leur maison à l'issue du BTS.
Je ne sais pas s'ils construisent leur maison, mais en tout cas, ils sont armés pour pouvoir construire des choses et aborder un projet avec cette notion de construction, oui, tout à fait.
Est-ce que ce sont des secteurs porteurs ? On a l'habitude de dire que le bâtiment, finalement, c'est un secteur qui sera pour toujours porteur. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que ce secteur est porteur ?
Il faut dire que le bâtiment est en difficulté. C'est lié à différentes choses. On parlait justement des contraintes réglementaires. Ça fait qu'il y a un surcoût. Les permis de construire aussi, il y a eu une forte baisse sur l'année, à partir de l'année 2012-2013. Et donc on ressent ces effets. Donc c'est très difficile. Il y a peut-être moins d'embauches. Mais paradoxalement, les entreprises cherchent des gens très qualifiés. Donc un jeune qui est formé au niveau d'un BTS, d'une licence professionnelle, voire plus, en fait, a de fortes chances de pouvoir s'intégrer dans les entreprises malgré la crise. Et puis les crises, on a toujours entendu parler. Moi, je suis arrivé dans le bâtiment au début des années 80, on parlait déjà de crise. Et finalement, le bâtiment, on en a toujours besoin quand même. On a toujours besoin de jeunes pour renouveler les anciens qui partent à la retraite.
Très bien. Merci à vous, Monsieur Martin.
Merci.
Vous êtes enseignant dans le lycée Schumann et Perret au Havre, et notamment à travers ces filières BTS, d'études et économie de construction et agencement architectural. Merci à vous.
Merci.
Deux, vous avez encore un titre.
Je te vois tous les matins, assis dans ton canapé.
Et là, notre ami Doz nous a trouvé un titre taillé sur mesure pour moi. Hein, c'est voilà, Where is Kebab ? Ton fils est moche. Voilà, nous sommes toujours au hall des expositions. Merci pour ce cadeau empoisonné, hein, ami Doz. Nous sommes toujours au hall des expositions à l'occasion de la journée des formations supérieures. Vous pouvez encore nous rejoindre jusqu'à 17h30. Sont présents sur ces halles des expositions bon nombre d'établissements scolaires, des lycées, des IUT, des universités qui proposent diverses formations. Vous êtes invités à venir les rencontrer, bien entendu. À partir de 17h30 et jusqu'à 18h30, une table ronde sera proposé au L des expositions avec pour thème les études supérieures, que choisir. Voilà pour ce qui arrive. Et puis j'ai deux petites secondes, on va en profiter parce que voilà, on parle d'orientation, de cursus, de formation. Dans quelques jours vont se tenir les rencontres jeunesse destinées aux 16-25 ans. Plus précisément, vont se tenir ces rencontres le 27 et le 28 novembre de 19h à 22h et comptez pas sur moi pour vous dire où. Si, okay. Je vais vous dire où. Il y en a dans plusieurs dans le département, à savoir que vous pouvez participer aux rencontres jeunesse de Pont-Audemer, de Bernay, de Conchanouge, de Breteuil, d'Evreux, de Gaillon, de Louviers, de Vernon ou de Charleval. Et voilà, et mon ami Deuze me souffle à l'oreille que la rencontre jeunesse d'Evreux se fera à Gravigny. Bah oui, ça se tient, Evreux-Gravigny, c'est juste à côté, il suffira de suivre. L'objet, eh bien, et toi jeune, qu'est-ce que tu fais ? C'est exactement ça, la question. Toujours dans les halls des expositions, Damien, alors là vous nous... je vais proposer... Non, je vous en prie, installez-vous là, s'il vous plaît. Et je vais proposer à Damien de prendre le micro, si vous le voulez. Non, vous ne voulez pas prendre le micro. Vous mettez quelqu'un en plateau et c'est à moi de me débrouiller. Bonjour madame. Voilà, bonjour.
Bonjour.
Alors, Damien vous a attrapé au vol.
Oui, tout à fait.
Il a dû voir en vous une personne ressource qui pouvait nous apporter des informations. Ah oui, c'est vous qui organisez voilà, ces rencontres jeunesse.
Alors, plus exactement, les structures jeunesse du département organisent avec le département des rencontres territoriales jeunesse qui se tiendront donc cette semaine, jeudi 27 et vendredi 28 sur le territoire.
Alors, nous venons d'en parler sur tous les points qui vont recevoir ces rencontres jeunesse. Quel est l'objet de ces rencontres jeunesse ? J'ai entre 16 et 25 ans, j'ai envie d'exprimer ma jeunesse, on pourrait dire. Quelles vont être les thématiques relevées sur ces rencontres ?
Alors, la thématique clé, qui est vraiment le fil conducteur de ces rencontres, c'est l'engagement des jeunes. Dans n'importe quel niveau d'engagement, hein, que ce soit vraiment du plus simple au plus prestigieux, et surtout de donner à voir et de donner envie aux autres jeunes de leur territoire, aussi l'envie de s'engager.
C'est une espèce d'échange entre pairs, de dire bah voilà, moi je m'engage, je partage
voilà
mon expérience, voilà, et éventuellement donner envie à d'autres jeunes de s'engager.
Exactement, c'est également un lieu de partage avec évidemment un côté convivial autour d'un repas partagé et aussi autour d'animation du territoire et selon les endroits, des petits concerts qui sont également menés par les jeunes des territoires.
Aujourd'hui, quand on a entre 16 et 25 ans, est-ce que c'est facile de s'engager dans sa vie locale ou dans sa vie extra-locale ?
Je pense que ça peut être très simple, sauf qu'il faut trouver les bons interlocuteurs et aller vraiment à la ressource pour être accompagné. Et c'est justement le souhait aussi de nos partenaires et des acteurs jeunesse qui sont impliqués dans l'organisation depuis 3 années déjà pour les rencontres territoriales du département.
Tous les lieux où vont se dérouler ces rencontres jeunesse sont des structures accueillant les jeunes, j'imagine, des points repérés sur les communes. Elles-mêmes sont, ces structures sont créatrices d'initiatives, j'imagine.
Tout à fait. Et la particularité, c'est que nous avons également en partenariat des communautés de communes, des villes dont les services sont associés et également aussi des établissements scolaires. Donc c'est vraiment très complet.
Cette initiative est portée par le Conseil Général de
oui,
l'Eure.
Tout à fait.
Est-ce que c'est important voilà, pour un département d'avoir une jeunesse porteuse de projets et dynamique ? Et en quoi c'est important ?
Ben parce que justement, vous l'avez dit, c'est la dynamique. C'est la dynamique. Alors,
si je donne mes réponses dans les questions, non, mais ça paraît tellement essentiel, nous-mêmes qui intervenons sur les publics.
C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à la politique du département dans le cadre du projet institutionnel Construisons Ensemble. Et là, c'est vraiment construire avec la jeunesse.
Il y a quelques exemples d'initiatives jeunesse comme ça, concrètes, qui pourraient nous parler.
Alors, on a également donc, dans le plan des actions de la politique départementale, des choses qui ont été développées, notamment de la structuration de groupes musicaux. Et à cette occasion, lors de la rencontre qui se tiendra donc jeudi prochain à Bernay, il y aura donc un des groupes qui est accompagné, The Laughing Cause, qui vont se produire.
Ah oui, nous les avons croisés.
Voilà, j'ai vu tout à l'heure,
je
les ai aperçus.
Absolument. Très bien. Eh bien, merci à vous,
merci
Madame
vous.
Jamais. Vous suivez très près, vous, ces rencontres jeunesse.
Oui,
hein, c'est vous
qui en êtes organisatrice, en fait, en tant que chef de projet jeunesse.
Très
voilà.
Bien. Bah, merci à vous
merci
d'avoir,
beaucoup.
Au pied levé comme ça, parlé de ces rencontres jeunesse. Merci. Deuze, eh bien, j'imagine que vous avez un nouveau titre à nous proposer. We'll be right back. Budos Band, nous sommes toujours au hall des expositions à l'occasion de la journée de l'enseignement supérieur.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Et nous recevons maintenant Arnaud Chabaille de l'Institut de formation en ergothérapie. Cette formation se déroule sur l'AMUS, si j'ai bien tout suivi.
Oui, tout à fait, à l'hôpital l'AMUS. Donc nous avons ouvert il y a 2 ans donc une formation en ergothérapie. Et à la rentrée 2014, une formation en masso-kinésithérapie.
Alors, on va définir tout de suite ces termes pour les non-spécialistes. Parlons d'ergothérapie et de masso...
Masso-kinésithérapie, c'est un petit peu plus...
C'est un peu plus simple pour le coup.
Ouais, un petit peu plus connu, on va dire.
Je vous propose de définir ces deux techniques.
Alors, l'ergothérapie qui est ma spécialité, c'est une profession paramédicale, 3 ans post-bac, pour l'Institut LAMUS, un recrutement sur concours qui aura lieu donc au mois d'avril. Vous trouvez tous les renseignements sur le site larenaissance.fr. Donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui exerce dans le milieu de la réhabilitation, réadaptation fonctionnelle et qui fait en sorte que la personne en situation de handicap, quel que soit son handicap cognitif, sensoriel, moteur, puisse être en interaction avec son environnement. Donc, c'est-à-dire qu'il puisse avoir accès à ses activités de vie quotidienne, mais aussi poursuivre une activité professionnelle ou avoir des activités de participation sociale, tout simplement.
Est-ce que ça s'adresse uniquement à un public en situation de handicap, l'ergothérapie ?
Ça peut également s'adresser à des personnes entre guillemets saines dans le cadre justement de la prévention de certains troubles pour limiter, retarder l'apparition de certaines pathologies liées au vieillissement par exemple.
Alors là, vous parliez d'un tas d'objets à l'ergothérapie. C'est tellement large. De quoi sont faits les contenus d'apprentissage? Du coup, on fait de la kiné, on fait, je sais pas, de la méditation, on fait de la psychologie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Alors, il y a 6 grands domaines d'enseignement. Le premier domaine, c'est un domaine, on va dire, de psychologie-sociologie, parce que... on est dans un domaine de santé, de handicap, mais avant tout on s'adresse à des personnes et à des personnes qui vivent dans un environnement, d'où la psychologie, la sociologie. Il y a un domaine de sciences médicales, bien sûr, puisqu'on s'adresse à des personnes principalement malades ou potentiellement malades. Ensuite, il y a deux gros domaines de pratiques d'ergothérapie avec des outils d'évaluation, mais aussi des outils d'intervention, c'est-à-dire des techniques propres à différents types de pathologies ou de troubles. Et puis, on est une formation universitaire, puisque en parallèle du diplôme d'État, on obtient aussi une licence. Et donc, il y a des méthodes de travail liées essentiellement à la production d'un travail de mémoire de recherche. Et puis enfin, un 6e domaine qui est celui de la compétence pratique que l'étudiant va développer en stage pendant 36 semaines au cours de ses 3 années de formation.
Alors du coup, c'est un peu plus clair sur les contenus. Concrètement, le travail de l'ergothérapeute, il est constitué de quoi? Est-ce qu'il intervient sur les lieux de vie des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il intervient en cabinet, en hospitalisation? Comment ça fonctionne?
Alors un ergothérapeute, ça travaille déjà avec toutes les tranches d'âge. Ça travaille avec des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Ça travaille aussi dans les différents domaines cliniques, aussi bien les troubles fonctionnels, qu'on appelle traumatologiques ou orthopédiques, les troubles neurologiques, les troubles cognitifs en lien avec les affections du système neurologique central, et puis aussi les troubles de la santé mentale et aussi un dernier domaine, des troubles qui ne sont ni l'un ni de l'autre. Je pense notamment aux troubles envahissants du développement, à l'autisme et aux troubles, ce qu'on appelle aujourd'hui de la sphère de l'autisme. Déjà tous ces domaines-là cliniques sont des domaines dans lesquels intervient l'ergothérapeute. Et ensuite, l'ergothérapeute, dans ses différents domaines, il est là pour mettre en adéquation les capacités de son... Alors, ce n'est pas son patient, c'est plutôt son... ni son client, mais la personne dont il a la charge, on va dire ça plutôt, de mettre en adéquation les possibilités avec l'environnement ou les activités préférées de la personne. Et donc, il peut intervenir sur l'environnement, la maison... le lieu de travail, la voiture.
Voilà, sur le coup d'un moment, c'est aussi le travail de l'ergothérapeute de dire, bah, le véhicule, il faudrait l'aménager comme ci, comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il intervient plus sur l'humain, mais sur l'environnement de l'humain.
Sur le matériel, effectivement. Donc, il intervient sur l'humain, dans la mesure de la récupération des troubles. Il intervient sur le matériel, sur l'environnement, mais il intervient aussi sur l'environnement humain. Donc,
la famille, les proches.
Pour conseiller, orienter, guider les personnes proches dans l'accompagnement de leurs proches malades.
Un ergothérapeute peut très bien accompagner une institutrice qui accueille au sein de sa classe un élève en situation de handicap, par exemple.
Tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, il y a bien sûr des spécialités dans l'éducation nationale de on va dire sensibilisation à la problématique du handicap, mais encore la semaine dernière, donc lors de la conférence sur les sports adaptés qui ont eu lieu à Évreux, là, on s'est rendu compte que nombreux professeurs de PS, par exemple, étaient partiellement ou mal formés justement à cette prise en charge concrète du handicap, et donc l'ergothérapeute peut être une personne ressource pour ses éducateurs.
Dans la mesure où on travaille sur des individus, des humains, oui. Tout simplement, j'imagine qu'il n'y a pas une méthode, une technique, mais autant de méthodes d'intervention qu'il y a de personnes qui s'adressent à vous.
Bien sûr, effectivement. Bien sûr, il y a déjà de nombreux outils d'évaluation qui vont correspondre aux différentes possibilités de troubles, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi des outils d'évaluation qui sont en fonction du contexte dans lequel se situe la personne. C'est-à-dire que la technique d'intervention peut être différente si on intervient à l'hôpital ou si on intervient à la maison, puisque ce sont deux lieux fondamentalement différents.
Vous proposez, vous, donc, une formation de 3 ans sur l'ergothérapie.
Oui.
Est-ce qu'il y a des prérequis pour les étudiants qui rentreraient dans ce cursus? Est-ce qu'il faut sortir d'un parcours particulier ou est-ce que c'est mieux de sortir de tel ou tel parcours?
Alors, le discours est un peu double, c'est-à-dire que les qualités générales d'un étudiant, c'est qu'il faut qu'il soit empathique, bien sûr, mais aussi qu'il soit créatif, ouvert, communicant. Et ça, n'importe quel étudiant, à partir du moment où il a ces qualités-là, peut réussir en ergothérapie. Le deuxième discours, c'est celui de la voie d'accès. Aujourd'hui, on recrute, pour nous à la MUS, sur concours. Et les épreuves de concours sont essentiellement basées, d'ailleurs uniquement basées, sur un programme scientifique de première S, terminale S.
Donc si on sort de L, c'est quasi impossible, moins qu'on ait fait une préparation.
Voilà, c'est pas quasi impossible, mais c'est un peu plus compliqué parce que ça va nécessiter une remise à niveau pendant peut-être 1 an, si tout va bien, ou 2 ans, pour se remettre à niveau de ces matières scientifiques qui, malheureusement, une fois qu'on est rentré en ergothérapie, vont plus servir à grand-chose.
Ah, c'est terrible ce que vous nous dites.
Ça, c'est un peu terrible, oui. Mais c'est pas que le problème de l'ergothérapie. On rencontre la même problématique en masso-kinésithérapie ou en PACES. C'est-à-dire qu'un étudiant qui peut rentrer en ergothérapie par la PACES, notamment dans certains établissements publics, comme à Paris ou à Laval, en ergothérapie, ce qu'il va faire durant sa PACES, ça ne va pas lui servir complètement non plus pendant ses années d'école d'ergothérapie.
Très bien. Est-ce que c'est un secteur en développement, l'ergothérapie? Est-ce qu'on peut se dire que c'est un secteur qui va générer de l'emploi actuellement et prochainement?
Alors, c'est un secteur en complet développement. On a doublé la population d'ergothérapeutes en à peine 10 ans et on a doublé le nombre d'instituts en à peine 5 ans. Et aujourd'hui, encore malgré tout, on ne diplôme pas suffisamment d'ergothérapeutes par rapport à l'offre. Et on a, nous, même si on est ouvert depuis 2 ans, régulièrement des professionnels qui nous appellent en disant trouvez-nous des ergothérapeutes, on a besoin d'ergothérapeutes. Donc c'est un métier qui ne connaît pas la crise. C'est un métier qui est en pleine expansion. Encore aujourd'hui, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Et je pense que c'est une force aujourd'hui de dire à un étudiant qui rentre chez nous, dans 3 ans, tu as un travail.
Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand, oui. Rares sont les cursus de formation où on dit, bon, dans 3 ans, voilà. L'histoire de l'emploi s'est réglée en même temps que l'obtention éventuellement du diplôme.
Oui, oui.
Voilà. Bah, très bien, merci à vous, Arnaud Chabaille, de nous avoir parlé d'ergothérapie. Et je rappelle que la filière se déroule sur l'AMUS.
Tout à fait, merci.
Merci à vous. Nous, on va se mettre une petite instru pour faire une conclusion de cette 3e heure de journée de la formation supérieure. Écoutez, on a revu encore pas mal de monde. Nous allons poursuivre nos échanges sur l'heure qui va venir également. Nous aurons des étudiants à nos micros. Nous aurons la chambre des commerces sûrement. Et puis sûrement également des formations autour de l'agriculture. Voilà, vous me faites oui, monsieur Pignon, c'est vous qui vous êtes chargé de tous les rendez-vous. Eh bien, nous, on repart à la pêche aux informations et on vous retrouve tout à l'heure.